Bien, donc nous sommes vendredi 20 décembre 2018 et nous allons essayer de comprendre pourquoi Yosef, Joseph en français, est allé en Égypte, a prospéré en Égypte, a fait venir ses parents, son père et évidemment ses frères en Égypte. Pourquoi ils étaient 70 à aller en Égypte, et 70, c'est incroyable, c'est un chiffre qui est pluriel, et il y a marqué Shivim Neshama, 70 au singulier. Il n'y a pas marqué 70 Shivim Neshamot, mais Aval Shivim Nefesh, pour être plus vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette âme collective hébreu s'est constitué, après s'être constitué avec Joseph et les enfants de Joseph et Yaakov Avinu, ils étaient en Égypte 70. Ah, c'est très important. Le 70, vous le savez, on l'a déjà vu de nombreuses fois, est lié à l'universel. Adam, je répète, contenait en lui, avant la faute, et après, les 70 nations, c'est ce qu'on appelle les Shivim Mishpachot Adama. Ça veut dire les 70 familles. Et les 70 nations, les nations, qui sont des Mishpachot Adama, je répète, je refais la tête d'Adam Harishon au tableau, et chaque nation avait sa fonction. Chaque nation avait sa mission, et à l'intérieur de chaque famille de la terre, oui, chaque famille de la terre, les fonctions étaient comprises par chacun d'entre nous.
Il avait ça dessiné sur la tête.
Les fonctions, chacun d'entre nous. Et ces fonctions étaient complémentaires aux autres. On avait compris qu'il y avait un plan et qu'il y avait donc une volonté unique, une volonté absolue. La faute d'Adam Harishon, je répète, on a vu ça plusieurs fois, ça a été de déconnecter Dieu de l'humanité. Et donc, à partir de ce moment-là, le fait d'être déconnecté a rendu quelque part l'homme libre. Et cette liberté, n'est-ce pas, amène tout simplement la mort. Qu'est-ce que c'est qu'un mort? C'est pas seulement quelqu'un qui est inanimé, que son âme a été déconnectée du corps. Un mort, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que Dieu est partout, partout dans notre vie. Et ce qui est très important de comprendre, fondamental de comprendre, c'est que ce Dieu qui est partout dans notre vie va se révéler à Abraham Avinu, à Yitzhak Avinu, à Yaakov Avinu. Et cette révélation, n'est-ce pas, s'est concrétisée dans le couple Jacob, Yaakov, Israël. Tant que Jacob était en Eretz Israël, il s'est battu contre l'ange d'Ésaü, tout ça on l'a vu. Et que ce couple Jacob-Israël travaillait avec Yosef. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler avec Yosef, étudier la Torah avec Yosef? Ça veut dire tout simplement mettez Dieu dans chaque acte de leur vie. Et à partir de ce moment-là, ils formaient un couple. Alors, je vais un peu plus approfondir quelque chose qui est a priori très difficile à comprendre. Bien sûr que Yaakov était un homme, bien sûr que Jacob était un homme, bien sûr que Yosef était un homme, mais il y avait le côté féminin de la fonction de Jacob, qui est une fonction de réalisation concrète. Par exemple, la révolution industrielle est dans sa réalisation féminine. Les civilisations sont féminines lorsqu'elles se réalisent. La théorie capitaliste est masculine. Mais le capitalisme en tant que chef d'entreprise, elle est féminine. Ça n'a rien à voir avec, évidemment, le corps d'homme et le corps de femme. Ce sont des fonctions. Maintenant, regardez. Le côté masculin de Yaakov se reliait avec le côté, quelque part, féminin de Joseph. Or, on sait, nous, que Joseph, c'était un homme. C'est ce qu'on appelle, les kabbalistes disent, il correspond au Yesod. C'est quoi le Yesod ? C'est le côté absolument masculin qui fait que, véritablement, l'ordre du monde tient sur la réception de du flux divin. Et Yosef était capable de recevoir. Pourquoi faire ? Pour l'injecter dans ce qu'on appelle la malchoute, la royauté. La malchoute est féminine et le yesod est masculin. Vous comprenez ça, c'est facile. La royauté est féminine et le yesod est masculin. Le yesod, c'est quoi ? C'est les fondements. Vous comprenez ça ? Maintenant, Jacob, lui, a vu son fils partir, vendu par ses fils. Il a souffert le martyr. Pendant 22 ans, il n'a pas vu. Pourquoi 22 d'ailleurs ? Vous avez compris pourquoi 22 ? Parce que c'est la lettre Tav. La lettre Tav, c'est la 22e lettre de l'alphabet. Une fois que l'histoire a été faite complètement, mais quelle histoire on parle ? Vous avez compris, c'est l'histoire universelle. Une fois que les 22 lettres de l'alphabet ont été faites, à partir de ce moment-là, il va rencontrer Yosef. Or, Yosef, c'est quoi ? C'est le côté homme qui va être injecté dans cette matrice féminine qu'on appelle l'Égypte. Et c'est quoi la sortie d'Égypte ? Les Rachamim disent, c'est l'éclatement des canaux. C'est la femme qui accouche d'Israël, vous comprenez ? Avec le sang et les douleurs d'enfantement. Le sang et les makotes et les plaies, etc. Parce que le peuple juif ne voulait pas sortir d'Égypte. Il était bien en Égypte. Parce que le peuple juif était tout simplement dans son monde. Il est devenu, entre guillemets, égyptien. Il avait atteint le 49e degré d'impureté. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a envoyé Moïse pour les sortir d'Égypte. C'est un accouchement. C'est-à-dire, à ce moment-là, le bébé, le peuple juif, était, en sortant d'Égypte, libéré. De quoi ? De la matrice maternelle. Or, quel est l'élément fécondant de cette matrice ? Yosef. Yosef, c'est l'élément fécondant de cette matrice. Yosef, c'est l'élément fécondant de cette matrice qui va permettre, tout simplement, à l'Égypte d'être sauvée. C'est quoi Yosef ? Vous avez compris ? C'est quoi ? C'est le bonhomme qui est capable, tout simplement, de comprendre les règles de civilisation, de comprendre les rêves de Pharaon, c'est-à-dire de comprendre ce que les autres sorciers ou les autres confesseurs ne peuvent pas comprendre. Pourquoi ? Parce que Yosef avait le plan d'ensemble. Yosef, il avait le plan d'ensemble. Les sorciers, ils voyaient quoi ? Ils voyaient un élément d'un ensemble. Ils ne pouvaient pas voir le plan d'ensemble. Alors Pharaon, qui était extrêmement fort, extrêmement intelligent, il ne faut pas croire, il était très, très impur, mais extrêmement intelligent, eh bien, il a dit, mais attends, Yosef, tu es très fort. Et il a, si vous voulez, testé. Il a dit, demain, tu vas faire un examen. Parce que moi, en tant que Pharaon, je connais les 70 langues. C'était l'obligatoire. Encore le code 70 qui apparaît. C'est quoi 70 langues ? L'universel. L'Égypte veut être l'universel. Maintenant, toi, je vais voir si tu les connais les 70 langues. Et Yosef, il connaissait le décodage avec son père, parce que c'était un hébreu. Il a travaillé pendant 17 ans avec Yaakov Avinu. Et donc, il savait ce que c'était que le décodage. Mais ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est les 70 langues. Alors, il y a un ange qui est venu. Ça, c'est dans le Talmud qui vous donne la source. Talmud, Sota, Hamoud, paragraphe 10, n'est-ce pas, la Maseret Sota, paragraphe 10, où Dieu, par l'intermédiaire d'un ange, a donné, maintenant vous allez le comprendre, la lettre et à Yosef. On ne parle pas de Yosef, mais Yéosef. Comme il a donné la lettre E à Abraham Avinu, il a donné la lettre E à Sarah, il a donné la lettre E à Yosef. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Qui c'est Yosef? On a dit que c'était, il était plutôt masculin. En lui donnant la lettre E féminine, c'est le côté réalisation qu'il lui a donné. À partir de ce moment-là, Yosef devient un super, hyper économiste. Et il connaissait les langues. Et Pharaon a eu très peur de ça. Il a dit, mais attends, mais c'est génial, toi. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Non seulement tu comprends les rêves, mais en plus tu parles les 70 langues. Alors il lui a fait un contrat. Il a dit, écoute, moi je suis Pharaon. Je ne suis pas comme toi. Je suis inférieur. Je ne connais pas le langage de Kodesh. Je ne connais pas vraiment les 70 langues. Et or, le Pharaon devait connaître les 70 langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devait porter en lui l'universel. La Révolution française, c'est moi, la France, qui a fait dévoiler au monde la Révolution française. Or, qui c'est Yosef? C'est celui qui dit, mais attends, c'est pas toi la France, c'est Dieu. Vous vous rendez compte de la folie? C'est-à-dire, véritablement, il a fait une révolution, Yosef. Et comment il a fait cette révolution? Tout simplement en étant un économiste. Alors, si on n'a pas le temps ici d'expliquer, mais il a intégré dans quelques psukim de la Torah, dans la paracha Miketz, pendant, comme par hasard, Hanouka, on la lit pendant Hanouka, n'est-ce pas? Il a donné les moyens à l'Égypte d'être en croissance et de se développer économiquement et de sortir vainqueur de la crise. Il a donné carrément, je voulais vous donner un exemple, je vais vous donner un petit exemple. Lorsque Pharaon il dit cette vache et cette vache et cette épi de blé et cette prix, etc. Toujours le chiffre 7. Or, nous, les économistes, on sait que le 7 est cyclique. Vous savez, bon, vous êtes, vous, encore jeune, vous ne connaissez pas bien l'économie, mais il y a ce qu'on appelle la théorie de De Juglar. Et dans la théorie de De Juglar, vous avez à peu près une période de 7 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 14 ans, vous avez les années d'abondance, 7 ans, et après, il y a un reversement de tendance, disent les économistes, où il y a avoir les 7 ans de disette. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a compris qu'il va falloir relancer l'économie en développant le mécanisme. Le mécanisme de quoi? De hausse, de production. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi. D'abord, il a dit une chose très importante. Il a dit, tout ce que je fais, c'est pas pour détruire. C'est pas parce que je veux vous posséder. C'est pas parce que je veux que les conseillers ne soient plus conseillers. Au contraire. Les conseillers, vous savez quoi? Restez conseillers. Gardez vos postes pour ne pas qu'il y ait un jalouse l'autre, pour ne pas qu'il y ait de jalousie. Chacun doit être à sa place. Vous voyez, Adam Arishon, chacun doit être à sa place. Mais seulement, vous n'avez pas le plan d'ensemble. Alors écoutez ce que je dis. Et qu'est-ce que je vais vous dire? C'est pas difficile. Le peuple doit avoir confiance en vous. Sinon, il doit voir qu'est-ce qu'il a fait. Dans chaque région, il a mis des conseillers de Pharaon. Qui, le peuple va dire, ah, je peux aller voir exactement comme il reste de blé. Il n'y a pas donc de trafic, il n'y a pas de roublardise, il n'y a pas de vol. Donc il y a la confiance entre le peuple et les dirigeants. Et vous savez bien que l'économie s'est fondée avant tout sur l'harmonie et sur la confiance. Donc, Yosef, il a utilisé l'ensemble des systèmes, je n'ai pas le temps de vous expliquer, parce que c'est un truc de fou, l'ensemble des systèmes, le marxisme, le socialisme, le capitalisme, tout a été utilisé par Yosef. L'intervention de l'État dans la vie économique, etc., etc. Et en plus, la vente, l'économie de marché, tout a été organisé par Yosef. Pharaon était complètement obnubilé, parce qu'il a compris que l'Égypte, Maintenant, je vais vous donner un très grand ou un petit secret, parce que je ne suis pas grand-chose. C'est que l'Égypte avait, au temps de Yosef, vécu tout ce que va vivre l'humanité jusqu'à au Mashiach David. Au niveau des systèmes. Système économique, système artisanal, système capitaliste, système socialiste. Tout ça, il va le vivre en très petit, en quelques années. Et en 14 ans, n'est-ce pas, l'Égypte va devenir exactement ce que le monde sera au temps du Mashiach ben David, un monde complètement développé, où chacun mangera sa faim. Entre parenthèses, c'est ce que voulaient faire les communistes, les marxistes. À chacun selon ses besoins. Lénine, dans son livre Que faire, il a expliqué, paru en 1919, il avait expliqué comment arriver, passer de la dictature du prolétariat au communisme par les différentes phases du socialisme. Et le communisme, c'est quoi? À chacun selon ses besoins. On va pas, je ne veux pas vous voler, mademoiselle, je ne veux pas vous voler, monsieur, parce que si je vous vole, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas faire votre fonction. Donc je ne veux pas vous voler. Les entrepôts seront ouverts et chacun va prendre sa paire de chaussures qu'il veut, son pull qu'il veut. Il ne va pas prendre deux s'il a besoin qu'un. Et ça, c'est Karl Marx. D'où ça vient, ça? De Joseph. Vous voyez, c'est un truc de fou. De Joseph. Joseph, c'est quoi? C'est cette capacité d'équilibre, d'harmonie universelle. Et Joseph était un Hébreu. Donc avec Joseph, on ne trafique pas. Avec Joseph, on ne monte pas. Avec Joseph, on ne va pas s'enrichir au détriment des autres. Vous avez entendu parler, évidemment, des Gilets jaunes. C'est quoi? C'est des gens qui ont compris, quoi. Ça suffit. Il y a là organisation d'une économie extrêmement, extrêmement déséquilibrante, où quelques-uns prennent la part du plus grand nombre. Donc il y a une injustice sociale, une injustice économique. Yosef a tout fait pour qu'il n'y ait pas. Il a réussi. Vous avez compris? Alors une fois qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il fait? Il va refaire corps avec son père. La paracha de cette semaine, la paracha Vayechi, il va faire corps avec son père. Son père, n'est-ce pas, va retrouver Joseph. Il va y avoir exactement l'union des contraires. Son père va redevenir prophète, parce que lorsqu'il a perdu Joseph, il ne pouvait pas prophétiser, parce que évidemment, il nous manquait sa moitié, il nous manquait Yosef, un tzadik. Il a beaucoup souffert, Yaakov Avinu, du départ de Joseph, il croyait que Joseph était décédé, et donc il y a des commentaires qui disent qu'il savait plus ou moins d'une manière intuitive que Joseph était toujours vivant, mais enfin bref, il a beaucoup souffert, et cette souffrance a entraîné chez lui la perte quelque part de la Neviout, de la prophétie. Il a retrouvé avec Joseph, mais comme il était en Égypte un peu. Parce que, tout simplement, la prophétie, dans sa totalité, ne peut se concevoir qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que, lorsque Jacob est rentré en Égypte, il ne s'appelait plus Jacob Israël. Comment il s'appelait? Seulement Jacob. Maintenant, regardez. La prière qu'il a fait pour ses fils, pour ses petits-fils, les fils de Joseph, comment il s'appelait? Ephraim et Ménaché. Il a fait une prière croisée, disent les Chachamim. Pourquoi croisée? C'est l'union des contraires. Vous avez compris? La vraie prière, elle n'est pas comme ça. La vraie prière, elle est croisée. Pourquoi elle est croisée? Parce que un est le complémentaire exactement de l'autre. Voilà. C'est bon? Bon, voilà. Donc, nous avons plus ou moins fini. Est-ce qu'il y a une question à poser? Est-ce qu'il y a une question à poser? Bon, merci, nous arrêtons ça. Merci, nous arrêtons. Non, n'enregistrez pas. Non, arrêtez.